place publique.
La reprise n'a pas sonné seulement pour l'horlogerie. Les ventes de fromage affichent, elles aussi, des valeurs élevées cette année. C'est le cas pour les appellations Tête de Moine et Gruyère AOP, produites notamment dans l'arc jurassien. Mais pour les responsables des filières concernées, pas question pour autant de céder aux sirènes de l'industrialisation. Vous l'entendrez, c'est l'artisanat avant tout. Protestants, catholiques et orthodoxes doivent-ils davantage se rapprocher? On se pose la question tout à l'heure à l'occasion de la venue du pape François demain à Genève, le souverain pontife qui répond, on le rappelle, à l'invitation du Conseil œcuménique des Églises, une institution qui œuvre depuis 70 ans pour l'unité des chrétiens. Enfin, trois jours après une édition record pour Festineuch, on verra si le modèle économique des festivals de musique est viable ou si ces manifestations d'ampleur sont condamnées au déficit.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Je vous propose de passer directement au fromage pour cette émission, et pas n'importe quel fromage, de la Tête de Moine et du Gruyère, deux appellations d'origine protégée qui sont produites, vous le savez, dans l'arc jurassien. Et d'ailleurs, les délégués de l'interprofession du Gruyère étaient rassemblés hier à Evologia à Cernier pour leur assemblée générale. L'occasion d'apprendre que les perspectives sont encourageantes pour cette année, une année marquée par la reprise économique et la reprise des ventes qui sont donc au beau fixe. La Tête de Moine n'est pas en reste, avec aussi des résultats en hausse par rapport à l'an dernier, on va en parler. Mais pas question d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Les deux filières entendent préserver une vision artisanale de la production. Est-ce que c'est compatible avec la pression du marché qui pèse sur les épaules des agriculteurs? Est-ce que c'est compatible avec le prix du lait qui ne cesse de baisser, avec l'évolution des technologies et le prix des investissements? Voilà autant de questions qu'on pose à nos deux invités. Philippe Bardet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'interprofession du Gruyère AOP, et Olivier Isler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gérant de l'interprofession de la Tête de Moine AOP. Alors avant toute chose, une bonne nouvelle, on l'a dit, les ventes pour vos deux AOP se portent bien. Olivier Isler, les derniers chiffres en votre possession sont encourageants.
Alors effectivement, les chiffres de vente de janvier à mai 2018 sont en progression de l'ordre de 5% par rapport à l'année précédente, et puis au niveau des exportations, on a une augmentation de janvier à avril de l'ordre de 15%, donc une situation qui est plutôt favorable pour le début de cette année également.
Et Philippe Bardet, on le lit dans votre communiqué à la suite de cette assemblée des délégués, donc hier à Cernier, pour le Gruyère, on peut même s'attendre à une année 2018, une année record.
Alors il faut toujours faire attention de partir des prunes sur la comète quand on connaît que 5 mois véritablement de consommation, mais c'est vrai que ce début de l'année était très bon, comme l'a relevé Olivier Isler pour la Tête de Moine, on a dans les mêmes chiffres. Alors avec d'autres volumes à l'exportation, les ventes en Suisse, mais on a des progressions partout qui ont été observées ces 5 premiers mois. Donc c'est très encourageant pour avoir, on l'espère, d'ici la fin de l'année, il y a un record d'exportation par exemple.
Alors la demande se porte bien, Philippe Bardet, parlons de l'offre. Vous avez souligné hier devant vos délégués la nécessité pour votre filière de rester artisanale. Aujourd'hui, est-ce que la tendance est à l'industrialisation ?
Alors, on a des règles très claires par le cahier des charges du Gruyère AOP, qui est reconnu par la Confédération, par aussi des guides internes, guides des bonnes pratiques qui donnent des limites à cette, à la mécanisation et surtout à l'automatisation des processus de fabrication. Et on entend bien les maintenir, voire les renforcer, parce que plusieurs enquêtes, et on vient d'en faire une dernièrement auprès de Mistren pour ce qui concerne le marché suisse, mais on l'a fait aussi sur le marché étranger, démontre bien que l'atout de notre produit est bien qu'il soit authentique et qui garde un caractère artisanal, donc qui permet de distinguer d'autres produits sur le marché. Donc il faut qu'on continue dans cette veine-là.
Cette veine, est-ce qu'elle est compatible avec la pression du marché ?
Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation la baisse de prix continuelle du prix du lait. C'est pas ce qu'on observe et c'est pas notre stratégie dans l'interprofession du Gruyère. On a un prix du lait de l'ordre de grandeur de 85 centimes par litre de lait transformé en Gruyère. C'est un des plus hauts de Suisse et peut-être même un plus haut du monde à ce niveau-là. Donc, c'est pas ce qui est recherché. C'est bien une valorisation la meilleure possible pour les producteurs. Donc par rapport à ça, c'est clair qu'il y a certaines conditions à remplir. On ne peut pas se comparer à du lait qui est fabriqué, qui est produit en Nouvelle-Zélande ou, à l'est de l'Allemagne, par exemple.
Mais reste que le prix des investissements est important et qu'être agriculteur, producteur aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile. Est-ce que la tentation de concentrer des efforts, de se regrouper, de produire plus pour avoir plus de revenus par rapport aux marges, est-ce que ce n'est pas quelque chose, malgré tout, qu'il faut encourager pour faire perdurer la production ?
Alors, peut-être du travail en commun pour économiser certaines machines, bien que certaines choses ne sont pas faciles, parce que quand on fait les foins, et puis on a bien une production au niveau du gruyère, soit de l'herbe, soit du foin, c'est la même chose pour la tête de mone, donc il faut les machines un peu en même temps, mais je pense que certaines économies sont possibles à faire. Il n'en reste pas moins qu'on tient à une production aussi décentralisée, donc ça veut dire derrière les sites des fromageries, aussi avoir un certain nombre de producteurs et pas une production unique concentrée quelque part au centre de la Suisse qui assure une diversité des coûts, qui assure aussi une certaine sécurité d'approvisionnement, parce que si vous avez, ça s'est vu plusieurs fois quand vous avez des grands centres de fabrication, s'il y a un problème dans ce centre, eh bien c'est toute la filière qui est en fait sous pression, tandis qu'avec notre schéma de production, on assure une bonne répartition sur le territoire et qui permet, il faut le dire aujourd'hui, qui permet à chacun de vivre au niveau de ses revenus, et ça c'est important et c'est nécessaire pour la pérennité de la production.
Olivier Isler, on le comprend bien, il s'agit pour ces AOP de produits à haute valeur ajoutée, ce qui permet aux producteurs aussi d'en vivre. Alors vous avez strictement la même préoccupation hein, du côté de la tête de moine, l'artisanat doit être préservé, preuve en témoigne d'ailleurs la volonté de ces trois producteurs du Jura et du Jura bernois qui souhaitent reprendre la fabrication de la tête de moine fermière au feu de bois, et qui ont convié la presse ce matin pour en parler et pour faire un appel aux dons.
Alors effectivement, on a dans notre filière une tradition, comme on a le gruyère d'alpage par exemple pour la filière du gruyère. On a dans la région d'origine de la tête de moine une tradition de fabrication fermière qui est appelée justement à être reprise maintenant par trois nouveaux exploitants qui souhaitent reprendre la fabrication fermière de la ferme La Fleur. Et puis c'est une preuve de plus qu'on va dans le sens d'un maintien d'une tradition et d'un respect des méthodes de production ancestrales qui viennent, se joindre ou compléter finalement une appellation d'origine contrôlée qui est déjà extrêmement stricte par rapport à son cahier des charges.
Est-ce que l'évolution de la technologie, hein, on parle beaucoup de révolution 4.0 par exemple pour les entreprises, l'industrie liée à l'horlogerie, est-ce que cette révolution-là de numérisation, de robotisation, de machines connectées, c'est quelque chose qui un jour devrait ou va faire son apparition pour la production de fromage telle que le vôtre, Olivier Isler ?
Alors on peut imaginer que dans un avenir assez proche, qu'on ait une évolution aussi des technologies qui sont utilisées dans nos ateliers. On pense surtout ici à des normes de traçabilité hein, qui sont exigées par exemple par la grande distribution au niveau international, où des supports 4.0 peuvent être intéressants, mais ça ne doit pas être des supports qui viennent en contradiction des productions traditionnelles. Ça ne doit pas se faire aux dépens de la production et de la qualité des produits. Et finalement, c'est la technologie qui doit s'adapter à la production et pas la production qui doit s'adapter à cette nouvelle technologie.
Vous mettez où la limite ? Par exemple, je crois que ce qui est un enjeu en ce moment chez les producteurs, c'est de savoir s'il faut traire les vaches de manière robotisée ou si c'est l'être humain qui doit s'en mêler. Quel est votre avis là-dessus ?
Alors, la filière de la tête de moine a eu l'occasion de se prononcer à deux reprises à ce sujet. Donc, il n'y a pas de production laitière robotisée dans la filière de la tête de moine. Les producteurs de lait se sont prononcé l'année passée en confirmant cette volonté de maintenir la présence de l'être humain au milieu de son troupeau au moment de la traite, qui est finalement l'étape la plus importante finalement au niveau de la production laitière. Et puis cette dimension artisanale de la production est aussi un avantage compétitif par rapport à des productions industrielles. On sait par exemple qu'il y a des fermes aujourd'hui qui sont capables de produire à peu près 1 million de kilos de lait par jour, alors qu'à l'échelle nationale, on se trouve plutôt à des niveaux de 100 000 kilos de lait par an. Donc nous, on souhaite conserver cette dimension artisanale. Et puis c'est des arguments finalement qui permettent de justifier une différence de prix au niveau des consommateurs.
Dernière question à vous deux, réponse brève s'il vous plaît quand même. On affiche, on se fait les relais de vos chiffres qui augmentent pour les exportations par exemple, que ce soit pour le gruyère ou la tête de moine, on parle de milliers de tonnes, on voit des graphiques d'année en année qui montrent des augmentations. Est-ce que ça c'est compatible, cette volonté d'ouvrir des marchés avec ce souci de rester artisanal, authentique, Philippe Bardet?
Alors tout à fait, aussi longtemps qu'on a une production, on a 165 fromageries, 55 fromageries d'alpage. Donc, on a tout à fait le potentiel pour augmenter notre production tout en restant dans des structures artisanales, dans des cuves qui ne peuvent pas être plus grandes qu'un certain volume, c'est 6400 litres par exemple. Donc, il y a tout à fait. Et puis, par rapport à la grandeur, par rapport aux millions de litres de lait qui sont là derrière, ou aux 30 000 tonnes pour le gruyère, je rappelle qu'en comparaison du marché européen, le gruyère, c'est 0,2% du marché. Donc, nous sommes bien un marché de niche.
J'imagine, Olivier Isler, que vous répondez dans les mêmes termes.
Alors, si le gruyère est un marché de niche, nous sommes une niche dans la niche. Et puis, effectivement, alors on a également une volonté de se développer, mais je pense qu'il est important de souligner qu'on souhaite que finalement ce développement, c'est le résultat d'une stratégie de qualité, d'une demande de la part des consommateurs. Et puis, on est aussi prêt, si c'est nécessaire, de réduire les volumes de production pour maintenir une valeur ajoutée pour l'intérêt de l'ensemble des partenaires de la filière.
Merci infiniment à tous les deux d'être venus dans Place Publique. Donc Philippe Bardet, directeur de l'interprofession du Gruyère AOP, et Olivier Isler, gérant de l'interprofession de la Tête de Moine AOP également. Bonne soirée à tous les deux.
Bonne soirée et bon appétit.
Place Publique. Gabriel Devecq.
La venue du pape François demain à Genève suscite un immense engouement auprès des fidèles et de la population. Pas moins de 40 000 personnes au moins assisteront à une messe célébrée à Palexpo, dont plusieurs centaines de l'arc jurassien. L'événement ferait presque de l'ombre à la Coupe du Monde de football qui bat son plein, vous le savez, en Russie. Mais si le souverain pontife se rend dans la cité de Calvin, ce n'est pas uniquement pour un bain de foule sacré. Le pape a répondu à l'invitation du Conseil œcuménique des Églises, une institution qui a été créée il y a 70 ans et qui œuvre en faveur du dialogue œcuménique pour l'unité des chrétiens. C'est en sorte l'ONU des Églises. Alors François est d'ailleurs le troisième pape à s'y rendre, après Paul VI et Jean-Paul II, c'est dire l'importance de cette institution. On en profite pour faire le point sur l'état des relations œcuméniques, notamment en ce qui concerne le dialogue entre catholiques et protestants, avec nos deux invités. Pierre Gisèle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur honoraire de théologie et de sciences des religions à l'Université de Lausanne. Et avec nous également Patrice Favre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de l'Écho Magazine, un magazine indépendant hebdomadaire, chrétien et culturel, distribué par abonnement en Suisse romande. Alors un mot d'abord, Patrice Favre, sur cette visite qui attire les foules à Genève. Comment vous expliquez un tel engouement? Est-ce que vous vous y attendiez?
Honnêtement, vraiment pas. Je n'aurais pas cru du tout qu'il y ait un tel engouement. Si on pense que c'est un jour de semaine, les gens travaillent, on est à Genève, qui est quand même une ville de grande tradition protestante, éloignée des religions, et j'ai été vraiment très étonné parce que autour de moi, j'ai vu des gens auxquels je n'aurais pas du tout pensé, des protestants, des gens très loin de la foi, qui ont tous cherché leur billet, et certains l'ont obtenu, et tout à coup c'était plein, et on était tous étonnés, moi le premier.
Pierre Gisèle, cette ferveur, on peut l'appeler comme ça, hein, déclenchée par la venue d'un pape, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que théologien d'obédience plutôt protestante?
Écoutez, deux choses. Dans un premier temps, je suis un tout petit peu surpris, mais c'est des vieux réflexes d'hommes modernes et peut-être trop modernes. Pourquoi une telle ferveur autour d'une personne qui, quand même, avec tout ce qu'il représente, est d'abord et avant tout un humain? Et voilà, donc un peu déstabilisé par cette ferveur aussi forte. Cela dit, plus profondément, ben, il faut quand même bien expliquer ça. Ça correspond probablement à des demandes de référence, de symbolisme, de mise en scène aussi, allons-y. Et que c'est certainement pas indifférent tout cela, même si ça doit être aussi critiqué, parce que l'essentiel des choses, humainement, religieusement, etc., c'est quand même pas lié à la venue d'un homme. Ce qui compte quand même, c'est le terrain, les choses tous les jours, etc. Et puis, au cœur des personnes.
Alors, il faut le rappeler, hein, le but premier de cette visite, à savoir un pèlerinage de reconnaissance envers le travail réalisé par le Conseil œcuménique des Églises. C'est une institution basée à Genève qui œuvre pour l'unité des chrétiens. Donc, c'est ça le but premier, Patrice Favre, qu'on comprenne bien. De quoi attirer l'attention sur ce conseil? C'est un peu l'ONU pour les Églises, mais c'est moins connu du grand public.
On en parlera du COE, mais j'aimerais dire un mot sur ce qu'a dit le professeur Gisèle. Il a raison de mettre l'accent sur cette starification, mais il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que j'ai bien connu les deux papes précédents. Jean-Paul II avait évidemment un grand succès, une aura aussi, mais ce qui a frappé les gens dès le début, c'est ce côté curé du monde, un peu du pape François, quoi. Cette capacité vraiment déjà de sortir un peu du modèle presque impérial et romain du fonctionnement des papes. Lui ne lit pas ses prédications, il le fera peut-être à Genève, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire à la messe, mais ce qui est étonnant à Rome, c'est cette capacité de parler comme un curé quand il dit au couple, écoutez, c'est normal de se jeter des assiettes à la tête, mais le soir, avant de dormir, dites-vous trois mots, s'il te plaît, merci, pardon. Les gens se sentent compris et ils comprennent le pape, ce qui est vraiment nouveau.
Alors, Pierre Gisèle, revenons alors du coup sur la personnalité du pape François, qui mieux que lui, plutôt axé sur le verbe proche, la pastorale, on va dire, plutôt que les guerres de clochers, qui mieux que lui peut justement rapprocher les croyants.
Oui, alors tout à fait d'accord avec le petit correctif de Monsieur Favre. La personnalité de François est tout à fait intéressante, séduisante et vraie, authentique, surprenante hein, quand même pour un pape. On n'a pas toujours été habitué à cela. Et puis, dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y a souvent des surprises, justement, dans le bon sens du terme. Donc, il y a aussi de la sympathie spontanée pour une personne qu'on ne peut pas aussi bien identifier à l'institution que d'autres. Et comme vous savez, aujourd'hui, les institutions n'ont pas tellement bonne presse. Donc, forcément, il y a tout ça qui se joue avec le fait que le pape, aujourd'hui, c'est justement François, avec toutes ses caractéristiques qui sont en principe bonne, bien sûr.
Et qu'il accepte, comme d'autres papes avant lui, de l'invitation de ce Conseil œcuménique des Églises, donc institution qu'on connaît peu, mais qui existe depuis longtemps et qui tient, qui est importante aux yeux de l'Église catholique aussi. Qu'est-ce que ça augure des relations œcuméniques entre catholiques et protestants, Pierre Gisèle? Est-ce qu'on peut y voir une nouvelle impulsion? Est-ce que c'est plus nécessaire que jamais?
Alors, une nouvelle impulsion, on verra bien ce qu'il dit. Il faut laisser la porte ouverte aux surprises possibles. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de vraies surprises, de vraies déclarations. Cela dit, ça s'inscrit quand même, vous l'avez rappelé au début, dans des visites antérieures des papes. Le Conseil œcuménique n'est pas connu du grand public, mais fait partie du paysage du christianisme depuis 70 ans. En ce sens-là, c'est pas un événement extraordinaire que François y vienne. Voilà, par ailleurs, de toute façon, la question de savoir si le catholicisme allait être membre du Conseil œcuménique, c'est une question qui était posée dès l'origine, qui était discutée, qui n'était pas scandaleuse à discuter. Et puis, par ailleurs, je rappelle qu'à l'intérieur du Conseil œcuménique, il y a plusieurs sections, plusieurs départements qui travaillent. Celui qui travaille le plus, les questions théologiques, doctrinales, qui pourraient être justement des questions sur lesquelles on s'est disputé, c'est le département qui s'appelle Foi et Constitution. Dans ce département interne au Conseil œcuménique, il y a 30% de membres qui sont des catholiques romains et qui ne sont pas des membres invités, mais des membres partie prenante complète. Donc, certes, l'Église catholique n'est pas en tant que telle membre du Conseil œcuménique, mais le travail en lien avec le Conseil œcuménique et même à l'intérieur du Conseil œcuménique a intégré la dimension catholique de façon forte depuis longtemps.
Patrice Favre, est-ce qu'il y a plus besoin que jamais de relancer un peu le dialogue œcuménique? On en parle depuis des décennies, il y a eu l'élan de Vatican II dans les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de réinventer un peu ce dialogue, d'aller plus loin, de viser même carrément l'unité un jour? Où c'est qu'on va avec ce dialogue entre protestants et catholiques, avec justement cette venue du pape dans un lieu important à Genève?
Comme l'a dit Pierre Gisèle, donc, on fête les 70 ans du COE et il ne faut pas oublier, dans une perspective un peu d'histoire longue, qu'à l'origine, à ce moment-là, les relations étaient tout sauf aimable et enthousiaste entre catholiques et protestants, même avec les orthodoxes. Il y avait vraiment des tensions fortes et méfiances très très fortes au sein du monde chrétien, et ça a beaucoup changé. Donc il faut quand même le dire, quand on regarde aujourd'hui, on peut vraiment parler, comme il y avait cette formule de dire qu'on est des frères séparés. Il me semble que longtemps on voyait que les séparés, on voyait pas les frères, alors que maintenant on a tous comme chrétiens d'excellentes relations avec des gens des autres communautés. Mais en tenant, il faut quand même admettre que chacun est un petit peu enfermé sur son petit jardin. On se regarde le nombril. Je pense que catholiques, c'est le cas pour nous. Les réformés, c'est aussi le cas. Ils lisent leurs auteurs, ils affrontent leurs problèmes institutionnels. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Comment payer les églises à Genève? Vous savez qu'il y a d'énormes problèmes. On fait quand même chacun un peu sa cuisine.
Et pas qu'à Genève. Et Pierre Gisèle, quel constat vous tirez-vous des relations écuméniques? Est-ce que chacun regarde encore un peu trop son nombril?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Fer. Chacun regarde un peu trop son nombril. Cela dit, cette formulation, elle n'est pas valable que pour la question du rapport interconfessionnel entre catholiques et protestants, mais aussi globalement pour chacune des traditions religieuses par rapport à la société globale. Aujourd'hui, chacun est un peu en repli et regarde son nombril. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous disiez unité, où est-ce qu'on en est et tout. Il y a forcément ce qu'a rappelé M. Favre tout à l'heure dans l'histoire longue de tous les progrès, disons, par rapport aux invectives et autres. Maintenant, si on est un peu lucide et tout, et pour aujourd'hui, moi, je dirais que ce qui est à viser, c'est pas d'abord et avant tout l'unité. Ce serait quelle forme d'unité, comment, qu'est-ce que ça veut dire unité, là-dessus, il y aurait quand même des tas de questions à poser. Par contre, je crois très profondément au dialogue, même à la confrontation, mais dit dans un sens positif, de nos traditions. Il faut qu'il y ait du travail interconfessionnel, je préfère dire interconfessionnel que écuménique, parce qu'écuménique, justement, il y a un petit peu le fantasme de l'unité, mais de l'interconfessionnel, où chacun s'enrichit dans le dialogue. Chaque tradition a des forces et des faiblesses. Il y a des forces et des faiblesses catholiques, il y a des forces et des faiblesses protestantes. Il faut pouvoir les confronter pour dépasser cela. Parce que de toute façon, la question, ce n'est pas de se réunir sur des formulations dogmatiques anciennes, c'est de savoir qu'est-ce que va être le christianisme aujourd'hui. Donc il faut repartir de notre présent, de la situation contemporaine, et là, il faut travailler ensemble, catholiques et protestants, instruits par notre histoire différenciée, mais en sachant aussi que ces différences ont cristallisé des choses intéressantes et instructives, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises.
Patrice Favre, pour terminer, peut-être un mot sur peut-être la vraie fracture à laquelle on assiste plutôt qu'entre catholiques et protestants. C'est peut-être la fracture qui situe entre ceux pour qui la religion est complètement indifférente, ceux qui sont indifférents à la religion et ceux qui sont au contraire à en faire une interprétation radicale, voire même violente.
Ce qui est intéressant, je crois, avec ce pape et ce que signifie aussi cette visite à Genève, c'est cette capacité qu'il a de mettre les choses en mouvement. Il le fait à l'intérieur de l'Église catholique avec des résistances et des freins considérables, mais vraiment, il se bat, il introduit, il essaie de pousser les réformes. Et il a cette vision que tous, on doit se voir en chemin. Il n'y a pas des gens qui, eux, ont la vérité, puis les autres, ils doivent simplement suivre. Il se met lui-même en jeu dans ce travail. Et puis, on sait qu'il a accueilli chez lui à Rome ou qu'il téléphone, qu'il voit des non-croyants, des athées déclarés. Il n'a pas peur de cette rencontre avec l'autre. Et c'est ce qu'il nous dit à tous les croyants. D'abord, il nous dit, arrêtez de vous occuper de vos petits problèmes internes. Est-ce qu'on arrivera encore à payer les factures du chauffage? Et allez chez les pauvres, allez dans les périphéries, allez là où il y a une urgence. Et c'est là qu'on verra que le christianisme est encore quelque chose d'intéressant. Parce que si on n'arrive pas à transmettre et à montrer cela, que c'est quelque chose qui nous réjouit et qui nous donne le goût de vivre mieux, ça n'intéressera personne.
Merci à tous les deux d'être venus dans Place Publique pour anticiper, pour chauffer la salle avant la venue du pape François demain donc à Genève. Pierre Gisèle, professeur honoraire de théologie et de sciences des religions à l'Université de Lausanne, et Patrice Favre, rédacteur en chef de l'Écho Magazine. Merci à tous les deux, à bientôt.
Merci, bonne soirée, merci.
Bonne soirée.
Place Publique.
Festineuch a vécu une 18e édition de rêve. Le festival musical a attiré pas moins de 45 000 festivaliers sur les Jeunes Rives à Neuchâtel entre jeudi et dimanche, avec même deux soirées sold out vendredi et samedi, une météo radieuse, des têtes d'affiche au rendez-vous. Et malgré cela, un déficit financier, certes léger, mais un déficit quand même. Alors la question se pose de savoir si le festival peut encore, de nos jours, le festival de musique, être un modèle économique rentable ou s'il est voué au déficit. On en parle avec vous, Antonin Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Festineuch, merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, le démontage se déroule ou s'est bien passé comme prévu?
Alors le démontage est en cours jusqu'à samedi. On rend la place samedi au cirque CNI qui vient l'occuper des samedis. Mais tout se déroule à merveille sous un soleil radieux et le sourire aux lèvres.
Alors on l'a dit, une édition de rêve et malgré tout une légère perte financière. Vous avez évoqué devant la presse la baisse du sponsoring, mais aussi le nombre élevé de billets enfants vendus à prix bas. Est-ce qu'on doit comprendre que Festineuch est d'une certaine manière condamné au chiffre rouge malgré son succès, à moins d'augmenter le prix des entrées? Ou est-ce qu'il s'agit d'un contexte particulier et passager?
Alors je pense qu'il s'agit vraiment d'un contexte particulier. La situation du festival est saine. Et c'est vrai qu'il faut analyser ces résultats financiers, non pas sur une édition, mais sur plusieurs. Parce qu'on sait que Festineuch est un événement à but idéal et non lucratif. Donc on n'est pas là avec une logique de profit. Et on se fixe chaque année un peu une fourchette. Et parfois on est légèrement positif, des fois légèrement déficit. Mais sur les 5 dernières années, je dirais que le festival est dans une situation saine. Et c'est vrai que c'est le contexte un peu particulier cette année, avec une tête d'affiche pour le jeune public le samedi qui a fait vendre énormément de billets à 3 francs. Et évidemment, tous les billets à 3 francs vendus pour les enfants, bah c'est des billets adultes qu'on ne vendait pas. Donc c'est un contexte un peu particulier et une baisse aussi du sponsoring, mais qui ne nous affole pas, parce que vraiment le but du festival, c'est vrai que si un économiste venait mettre ses yeux dans le festival ou un économiste d'entreprise, ben, il nous conseillerait, quand le jour où on fait un concert pour enfants, de faire payer les enfants au prix plein. Il nous conseillerait peut-être de dépenser moins sur des aménagements, sur les groupes locaux qui ne font pas forcément vendre du ticket. Mais nous, notre valeur, et c'est ça la force du festival, c'est une cohérence par rapport à des valeurs et un but idéal et non lucratif. Et les aspects commerciaux du festival, comme la vente de boissons par exemple ou de tickets, ne servent qu'un but idéal et non lucratif.
Alors vous avez déclaré dans la presse, en termes de contexte général cette fois-ci, entre guillemets, que tenir bon dans le business hyper concurrentiel des festivals musicaux relève du miracle, je ferme la citation, c'est dire l'effort que vous arrivez à fournir avec vos équipes chaque année. Je vous propose d'entendre au sujet de ce contexte concurrentiel le point de vue du professeur d'économie territoriale à l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel, il s'agit de Olivier Crevoisier. Il nous parle des enjeux de cette concurrence toujours plus vive dans votre domaine d'activité.
Ce qui a beaucoup changé, je crois, au cours des 15-20 dernières années, c'est que les consommateurs sont devenus beaucoup plus mobiles et également avec Internet, ils sont beaucoup plus au fait de ce qu'ils peuvent attendre de tel ou tel festival ou de telle ou telle manifestation. Et le résultat de cela, c'est qu'en fait, on a une concurrence très forte qui s'est mise en place entre les villes, entre les manifestations. Et cette concurrence, elle a beaucoup d'effets. C'est le premier de ces effets, c'est bien sûr qu'il y a une hausse de l'offre et de la qualité en général de ces manifestations qui est tout de même impressionnante. Et puis de l'autre, bien évidemment, il y a une certaine concurrence. C'est-à-dire que les gens choisissent, ils deviennent plus exigeants, ils veulent toujours plus de prestations, et puis il y a des pressions sur les revenus. Donc, bon, c'est bien qu'un festival, il va compter sur différentes sources de revenus. Il y a bien sûr les prix d'entrée. Mais aussi, par exemple, le sponsoring. Alors, le sponsoring, il n'est pas infini. C'est-à-dire que là aussi, il y a une pression. Il y a de plus en plus de manifestations qui demandent à des sponsors de les aider. Et là, voilà, c'est pas infini.
Donc, si je vous comprends bien, même si le public répond présent, il y a quelque part comme une surenchère de l'offre et aussi une réduction des marges.
C'est ça. Alors, c'est une situation voilà, de concurrence hein, qui s'intensifie. Donc c'est assez difficile aussi pour les grands festivals, entre guillemets, de survivre parce que le public est de plus en plus, encore une fois, exigeant. Et ces festivals, en ayant grandi énormément, eh bien, ils doivent aussi faire face à toutes sortes de coûts supplémentaires. Ils doivent avoir plusieurs scènes, ils doivent avoir des parkings qui deviennent gigantesques, ils doivent avoir des accès qui sont compliqués. Et à un moment donné, ça devient aussi trop cher, quelque part.
Quelles peuvent être les clés de la réussite pour ne pas aller dans le mur et pour continuer d'avoir un développement harmonieux?
Alors, je crois qu'il y a bon, des recettes économiques classiques qui consistent à s'interroger un peu sur les différents coûts, les possibilités d'augmenter certaines recettes. Ça, c'est clair. Hein, donc, mais il y a aussi une réflexion peut-être plus qualitative qui doit porter sur le type de public qui vient au festival. Et est-ce qu'il est possible, bien sûr, de le fidéliser? Mais est-ce qu'il est possible peut-être d'en drainer d'autres Alors ça peut être par exemple en agissant sur la programmation et en cherchant peut-être à être un festival à la fois qui répond à une certaine demande locale, mais qui peut être aussi qui peut attirer des gens de plus loin parce qu'il y aurait une programmation plus ciblée, plus spécialisée ou plus originale.
Là, vous nous parlez de réglage fin ou bien vous préconisez carrément un changement de modèle?
Alors, pour Festineuch, il semble que la formule fonctionne bien. Enfin, moi, je n'ai pas du tout vu les comptes, bien entendu. Donc ça, c'est aux organisateurs de se pencher sur ces questions-là. De manière générale, je crois que les festivals, ils fonctionnent sur les deux modèles. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner un moment sur un certain modèle. Ils vont attirer leur public. Et puis, à d'autres moments, ils doivent soit se renouveler complètement, soit quelquefois ils disparaissent, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, on est vraiment ici dans une économie qui est une économie, encore une fois, concurrentielle, et qui fait qu'il faut trouver souvent des formules originales, il faut se différencier des autres, mais pas trop quand même, parce qu'il faut qu'on ait un public relativement large, etc. etc. Donc, c'est toute une branche d'activité qui évolue régulièrement.
Antonin Rousseau, évidemment, on imagine que ces propos vous parlent et que ces questionnements sont les vôtres chaque année, si ce n'est pas chaque jour. Toujours plus de prestations, pression sur les marges, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous vivez?
Bah, disons, ce qu'on rencontre, évidemment, c'est une concurrence au niveau international sur le marché de la musique, mais surtout au niveau de la programmation des têtes d'affiche. On doit se battre contre des festivals qui sont maintenant rachetés par des multinationales comme Live Nation, avec des moyens financiers bien plus considérables que les nôtres. Mais je dirais que par rapport à la concurrence, nous, notre but, c'est pas de rivaliser avec d'autres gros festivals européens ou même les autres gros festivals suisses. Et ça fait plusieurs années qu'on mise vraiment sur un ancrage régional très fort. Et je crois que la recette, en tout cas, fonctionne, étant donné que quand on regarde l'évolution du nombre de festivaliers chaque année, on voit qu'on a des gens qui sont de plus en plus fidèles à Festineuch, et chaque année, plus de monde, ou presque. Donc, je pense que la recette est la bonne. Notre offre répond vraiment à une demande du public. Les gens aiment et apprécient Festineuch. Ils y viennent même, d'ailleurs, des fois, indépendamment de la programmation, juste parce que le cadre leur plaît et la convivialité du festival leur parle. Mais je dirais que nous, vraiment, avant tout, il faut comparer ce qui est comparable. On carbure avant tout à des valeurs, à un esprit, à un ancrage régional pour s'imposer, chose qu'on est en train de parvenir à faire, comme un événement incontournable pour bon nombre de Neuchâtelois.
Mais vous n'êtes pas condamné à grandir dans la catégorie des grands festivals, hein, de laquelle
non,
vous réclamez.
C'est pas notre souhait. Maintenant, c'est vrai qu'on fait partie quand même des gros festivals au niveau suisse avec 45 000 festivaliers. On est le 2e ou 3e plus gros festival open air de Suisse romande. Mais on n'a pas pour vocation de continuer à se développer. Je dirais que vraiment que si on peut stabiliser le festival et arriver à l'équilibre financier, vraiment arriver à zéro sur les 10 prochaines années, on signerait tout de suite. Et c'est vrai qu'on a subi une certaine diminution au niveau du sponsoring cette année. On est convaincu qu'on a les moyens de mobiliser en tout cas le tissu économique neuchâtelois aussi pour nous aider à pérenniser l'événement. Donc je dirais qu'il n'y a en tout cas pas péril à la demeure et on ne remet pas en question en tout cas la recette du festival, mais on a toujours le souci évidemment d'améliorer le contenu, l'offre et d'offrir plus d'émotions au-delà de ce qui se passe uniquement sur les scènes.
Eh bien, on retient cette confiance, cet optimisme, cette affirmation de vos valeurs. Antonin Rousseau, merci. Vous dirigez Festineuch. On rappelle que la prochaine édition se tient du 13 au 16 juin 2019. Bon repos, j'imagine que vous en avez besoin. Bon été et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Place publique.